Alors qu'une personne sur huit dans le monde se réclame d'une religion, la pluralité culturelle et religieuse soulève des questionnements liés au fondement de l'identité dans un pays. Chaque pays, avec son histoire, ses valeurs et son régime politique, est irrémédiablement confronté à cette diversité en termes d'ethnie, de langue ou de croyance. D'une démocratie qui interroge son modèle de laïcité à un État autoritaire qui rejette ses minorités, nous vous emmenons à travers ce podcast dans un voyage au cœur des sociétés plurielles. D'un bout à l'autre du monde, nous essaierons de comprendre avec vous les enjeux et les problématiques liées à la pluralité culturelle et religieuse. Pour la première escale de ce voyage, nous nous arrêtons en Inde. Berceau du bouddhisme et de l'hindouisme, peuplé par les communautés musulmanes, chrétiennes, sikhs et parsis, mais aussi juives depuis plusieurs siècles, la pluralité religieuse fait partie intégrante de la plus grande démocratie du monde. Héritière du sécularisme britannique, l'Inde ne s'est pas contentée de calquer le modèle, elle se l'est approprié en 1947 pour en faire un instrument garant du vivre ensemble au lendemain des affrontements interreligieux provoqués par la partition avec le Pakistan.
Depuis 2014 et l'arrivée au pouvoir du nationaliste hindou Narendra Modi à la tête du pays, le principe du sécularisme indien subit de nombreux assauts, tant dans son essence que dans son application. En effet, l'avènement du parti du Bharatiya Janata Party, ou BJP, a profondément bouleversé l'équilibre religieux déjà fragile en Inde pour laisser place à la mise en place progressive d'une démocratie ethnique, selon les mots de Christophe Jaffrelot, soit la création d'une nation par et pour les hindous. L'hindouisme imprègne de manière exponentielle le discours politique, mais aussi l'espace public quand les minorités religieuses, musulmanes, chrétiennes, sikhs, jains, etc., sont toujours plus ostracisées et délégitimées. Des affrontements communautaires de plus en plus fréquents ponctuent l'entreprise du BJP de réécriture de l'histoire culturelle du pays et participent de la création d'un véritable clivage entre institutions politiques et minorités religieuses. À travers ce podcast, nous n'avons pas vocation à explorer l'ensemble des processus bien trop complexes qui ont mené aux dérives nationalistes que connaît aujourd'hui la société indienne. Nous vous proposerons plutôt une lecture du pluralisme indien à l'aune de plusieurs thématiques qui nous semblent fournir des clés de compréhension de l'Inde d'aujourd'hui.
Pour présenter l'évolution de la pluralité culturelle et religieuse en Inde, nous discuterons avec quatre membres de l'Observatoire Pharos. Thibaut Chanvin, observateur junior, s'attachera tout d'abord à définir le sécularisme dans son application indienne. Panuga Pulanthiran, observatrice junior plus, reviendra ensuite sur le fondement du lien entre politique et religieux en Inde.
Anouk Karsignol, observatrice référente Inde, nous parlera de la gestion du patrimoine culturel indien. Léna Grelet, observatrice junior, analysera la question des droits des femmes et minorités à l'aune du pluralisme.
Bonjour Thibaut, est-ce que vous pouvez nous décrire le sécularisme en Inde ?
Oui, alors trois éléments caractérisent le sécularisme de manière générale. La garantie de la liberté religieuse, la citoyenneté et la séparation de l'État et de la religion. Au moment de l'indépendance en Inde, la question s'est posée de savoir quel type de régime politique on allait instaurer. On se demandait notamment s'il fallait faire ou non de l'Inde un État séculier. Finalement, la Constitution adopta un ton très séculier. Alors je me contenterai de relever l'article 25 qui établit les principes de base. Il précise donc que toute personne possède la liberté de conscience et le droit de professer et pratiquer sa religion. Pour autant, la Constitution ne qualifie pas tout de suite l'Inde d'État séculier. En effet, c'est en 1976 qu'un amendement viendra ajouter le terme de sécularisme dans le préambule de cette constitution. Mais pourtant, l'idée est bien présente, bien plus tôt que ça. En 1962, la Cour suprême, qui est donc en charge d'interpréter la constitution, déclare que les articles 25 et 26 soulignent la nature séculière de la démocratie indienne. Et par la suite, d'autres jurisprudences sont venues s'ajouter dans cette direction. Malgré tout, la constitution indienne contient plusieurs dispositions qui vont à l'encontre de ce sécularisme. Par exemple, on a l'article 1 qui attribue comme nom à l'Inde le Bharat, fait référence à un roi légendaire de la mythologie hindoue. L'article 48, lui, vient interdire l'abattage des vaches. Et donc la Cour suprême a été contrainte également d'adopter des décisions qui allaient dans ce sens-là. Ainsi, en 1974, alors les juges ont déclaré que, je cite, la Constitution n'a pas érigé une séparation stricte entre l'Église et l'État. Et de fait, les juges affirmaient que « nous avons des doutes à savoir si l'expression « État séculier » peut s'appliquer à l'Inde ». L'amendement de 1976 qui introduit le terme de sécularisme dans la Constitution indienne ne règle cependant pas le problème. Le débat ne porte pas sur la tolérance et la liberté religieuse. C'est des aspects assez acquis du sécularisme en Inde déjà à cette époque. En revanche, le débat va beaucoup plus porter sur le degré de séparation entre le religieux et le politique. Alors l'origine de ce problème est assez simple, c'est que finalement, la Constitution n'apporte jamais de définition du sécularisme ni de la religion. En Europe, la religion possède une forte dimension institutionnelle. On distingue aisément la vie religieuse de la vie politique, le sacré et le temporel. En Inde, la religion se décline différemment. La spiritualité est présente dans tous les aspects quotidiens de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Et par exemple, les deux grandes religions indiennes, que sont l'hindouisme et l'islam, n'ont pas cette dichotomie entre spiritualité et état, vie politique. Dès lors, la séparation du politique et du religieux requiert une définition de ce qu'est la religion. Je vais prendre un exemple pour illustrer cette différence de perception de ce qu'est la religion telle que nous la connaissons et telle qu'elle peut être envisagée en Inde. Gandhi ne souhaitait pas une séparation du politique et du religieux, du moins pas de la religion dans toutes ses dimensions. En effet, selon lui, la quête constante de la vérité devait être envisagée dans la sphère politique. Alors cette quête constante de la vérité se réfère au dharma, un concept qui est lié aux religions hindoues, bouddhistes, sikhs et jains. En revanche, il s'oppose à l'imbrication avec le politique d'une dimension plus dogmatique de la religion qui s'apparenterait davantage à la vision européenne. Pour autant, pour Gandhi, ces deux dimensions sont religieuses.
Voici un extrait de la décision de la Cour suprême de 1995. Normalement, Hindutva est compris comme un mode de vie ou un état d'esprit et ne doit pas nécessairement être synonyme ou assimilé à un fanatisme religieux hindou. C'est une illusion et une erreur de droit que de supposer que l'usage des mots Hindutva ou hindouisme représente en soi une attitude hostile envers toutes les personnes pratiquant une religion autre que l'hindouisme. Ces mots peuvent être très bien utilisés dans un discours promouvant la laïcité ou mettant l'accent sur le mode de vie du peuple indien et de la culture indienne ou de son éthos, ou critiquant l'action de tout parti politique vu comme discriminatoire ou intolérante.
Ambedkar, qui fut l'un des pères de la Constitution, a essayé de mettre une distinction entre le religieux et le politique autour de ce qui est essentiellement religieux, c'est-à-dire les rites, les prières, les cérémonies. Et la Cour suprême a essayé de s'inscrire dans cette même démarche. Donc c'est ce que nous montre cet extrait. Et pour remettre un peu de contexte, le terme d'Hindutva vient d'un livre écrit par Vinayak Damodar Savarkar, qui revendique une identité indienne incarnée par la culture hindoue. Alors ce terme est entré en cohésion avec les partisans d'un nationalisme religieux hindou et il a acquis une connotation purement religieuse. Mais pour certains, le terme Hindutva a un autre sens. Il désigne avant tout une civilisation, une culture sur un territoire. Il se distingue donc d'un fondamentalisme hindou et c'est dans ce sens que la Cour suprême semble interpréter le mot Hindutva. Dans le même esprit, sur une autre affaire, on peut parler du délit de corruption basé sur l'appel au sentiment religieux dans une perspective électorale. En 1995, la Cour suprême rendait une décision basée sur ce délit. Elle considère alors que le mot « Hindutva » doit être entendu dans son contexte. Selon le contexte, il peut être entendu dans un sens purement religieux ou, je cite, « lié à la culture et au patrimoine indien sans rapport avec la religion ». Le flou qui entoure le principe de sécularisme et notamment la question du religieux et du politique, à la fois dans la Constitution et dans la jurisprudence, est l'une des causes qui a conduit aux dérives politiques que connaît l'Inde aujourd'hui.
Comme l'a rappelé Thibault, le sécularisme est une notion dont la définition a évolué au cours des dernières décennies. Mais cette valeur fondamentale de l'identité indienne, portée par les dirigeants politiques depuis l'indépendance, répondait à un défi particulier, celui de gouverner des anciens royaumes et des États autonomes. Panuga, quels sont les fondements du lien entre le politique et le religieux en Inde ?
On dit de l'Inde qu'elle est la plus grande démocratie du monde avec un électorat de plus d'un milliard d'individus. La population indienne est appelée à voter tous les 5 ans lors des élections législatives nationales pour élire leurs représentants à la Chambre basse, le Lok Sabha. Elle doit également élire leur assemblée locale dans chaque État, qui a un certain nombre de prérogatives comme l'économie ou l'éducation. Nous sommes donc en présence d'une stratification politique complexe qui a nécessité de penser la mobilisation électorale autrement. Alors comment être un parti indien, mais aussi une structure politique qui parle au local? Comment rallier des groupes, des communautés, des individus qui ne s'identifient pas toujours à la nation indienne, qui est une construction avant tout venant du haut, qui vient des élites? Si on regarde la période pré-indépendantiste, la mobilisation sur des identités particulières avait fait déjà son chemin à travers ce qui avait été appelé la théorie des deux nations. Cette théorie désigne l'idée que les hindous et les musulmans ne pourraient pas vivre dans un même pays et a en partie influencé la partition entre l'Inde et le Pakistan. C'est une autre vision qui a été retenue en 1947, celle du Parti du Congrès. Le parti de Gandhi et de Nehru avait pour ambition d'inclure la minorité musulmane indienne, mais aussi toute la diversité du sous-continent indien. Les électorats séparés pour les hindous, les sikhs et les musulmans de la période coloniale sont supprimés pour réaffirmer l'égalité des indiens devant le suffrage. Une clause législative datant de 1951 interdisait dès lors les campagnes électorales basées sur des thèmes religieux.
Ces mesures ont-elles permis d'unifier l'Inde autour du sécularisme et de différencier le religieux du politique ?
Ces mesures sont importantes, mais n'ont pas réussi à mettre de côté une caractéristique de la culture politique indienne qui est appelée la culture de la fitna, ou de la sédition, ou du transfert d'allégeance. Il faut savoir que l'Inde n'a jamais été un État ou un empire centralisé dans son histoire. C'est avant tout un système pyramidal d'allégeance qui a prévalu jusqu'à l'indépendance. C'est-à-dire que chaque royaume était dirigé par un souverain, lui-même dépendant de chefs locaux et se disputant le pouvoir. Chaque souverain ou chef local s'associe au plus offrant pour s'émanciper de la tutelle de son supérieur. C'est donc la culture de la fitna, et celle-ci repose sur la logique du système des castes. Le Parti du Congrès donc hérite de cette culture au sein de son parti, car il est composé d'intellectuels, de professions libérales, de commerçants, d'hommes d'affaires, de propriétaires terriens et de princes. Donc le parti devait composer avec toute cette diversité de professions qui appartenaient à ce système d'emboîtement d'allégeance pour se maintenir au pouvoir. Le Congrès ne pouvait donc pas mobiliser sur sa seule identité nationale. L'extension de l'électorat a nécessité l'inclusion de groupes n'ayant jamais fait l'expérience du vote auparavant, et les dirigeants locaux vont s'avérer être utiles pour justement mobiliser le plus grand nombre. Ces leaders locaux, qui sont souvent issus des hautes castes, conservent une influence auprès des communautés dont ils avaient la gestion auparavant. Cette base locale de fidèles, qu'on appelle en anglais « vote banks » ou « banque de votes », pouvait être ralliée moyennant que le Congrès réponde favorablement aux demandes des dirigeants locaux. Et si le dirigeant local se retrouvait avec une autre offre politique plus intéressante, son soutien au Congrès était compromis. Donc on voit ici qu'il y a un système d'allégeance qui perdure et des réalités sociopolitiques de l'Inde qui ont fragilisé déjà le sécularisme qui avait été pensé et porté par les leaders du Congrès dès les premières années de l'indépendance. Donc le parti a dû très vite adopter une approche pratique du pouvoir, car il était difficile de mobiliser sur l'identité indienne, justement à cause de la persistance de ces identités de groupe. Jusque dans les années 1980, on observe une pratique clientéliste de la politique indienne qui est basée principalement sur le système de caste et d'identité régionale linguistique. Les années 1980 pourraient être considérées comme un tournant pour deux raisons principales. D'une part, la politisation des castes, mais aussi la mobilisation électorale sur des critères religieux. Donc si une pratique clientéliste de la politique fissure les bases du sécularisme, cette culture politique a aussi permis à d'autres groupes, et en particulier les groupes de basse caste, d'entrer sur la scène politique. Donc on observe trois nouvelles catégories qui vont être créées pour favoriser l'intégration et pallier le manque de représentation de personnes de basse caste dans la vie publique et politique. Donc on a les Scheduled Castes, les castes répertoriées par l'État, les Scheduled Tribes, les tribus répertoriées par l'État, et les Other Backward Classes, les basses castes. Donc ces trois listes ont permis la mise en place de politiques d'inclusion, comme un système de quotas dans la fonction publique, ou des sièges réservés dans les assemblées locales. Même si ces mesures ont été pensées comme temporaires, elles constituent maintenant le socle de la démocratie indienne. L'appartenance de caste s'est graduellement politisée et a été revendiquée par les intouchables, par exemple. Donc ce groupe notamment s'est politisé sous l'appellation Dalit pour porter leurs revendications. Et cette nouvelle donne politique contraint le Congrès, qui était jusque-là en quasi-monopole du pouvoir politique fédéral, à repenser sa mobilisation électorale. L'émancipation donc des basses castes et des classes moyennes par la politique ne permet plus désormais de mobiliser sur ces identités-là. Et donc, ces circonstances ont motivé certains choix du Congrès dans les années 1980 et ont fait émerger le religieux dans la politique de manière insidieuse et qui a été approprié par ailleurs par le BJP par la suite.
Panouga, comme tu le mentionnes, le Parti du Congrès a contribué à l'émergence du religieux en politique pour contrer la montée des nouveaux partis concurrents. Comment se traduit ce retour du religieux dans la sphère politique? Quels sont les exemples qui peuvent illustrer cette évolution?
Pour illustrer cette évolution, on pourrait évoquer le cas de la communauté musulmane, parce que jusque dans les années 1980, les musulmans ont souvent soutenu le Parti du Congrès, qui était perçu comme un garant du multiculturalisme et du sécularisme qui avait été auparavant porté par Nehru. La prise de position de Rajiv Gandhi en 1985, qui était alors à la tête du Parti du Congrès, est un des premiers signes de l'irruption du religieux comme facteur de mobilisation politique et de gain électoral. Donc, on peut citer l'affaire Chabanou, que Léna va nous évoquer par la suite, où Rajiv Gandhi a cédé à la pression de certains leaders musulmans qui étaient opposés à un jugement de la Cour suprême sur cette affaire-là. Cette plaignante musulmane avait obtenu le droit à la pension alimentaire alors qu'elle fut répudiée par son mari selon la loi coutumière. Rajiv Gandhi, qui était soucieux de préserver le soutien des leaders religieux qui étaient traditionnellement alignés avec le Congrès, se prononce contre cette décision de la Cour suprême. Et il s'aligne donc aussi dans la même ambiguïté que sa mère Indira Gandhi, qui avait reconnu quelques années auparavant l'université d'Aligarh comme autonome en raison de son caractère représentatif d'une minorité. Et donc on voit ici une progressive communalisation du jeu politique. Bien que la droite nationaliste hindoue fût très critique de cette prise de position qu'elle a qualifiée de compétition déloyale, elle capitalise des voix sur le même modèle en constituant une banque de voix hindoue aujourd'hui. Ces prises de position historiques dénotent un glissement progressif du politique vers le religieux, mais ce n'est pas seulement un mouvement du haut vers le bas. La communauté musulmane n'est pas un ensemble homogène en Inde, et celle-ci accorde sa confiance à un parti en fonction de ses intérêts locaux directs. Donc il faut rappeler ici que les musulmans représentent 13% de la population indienne et sont majoritaires dans l'état du Jammu et Cachemire, en Assam, au Bengale occidental et au Kerala. Et ce poids démographique des musulmans a très vite été intégré dans les enjeux de mobilisation électorale, mais les musulmans aussi ont leur propre stratégie de vote. En analysant les élections de 2014, on peut relever des informations intéressantes en matière de tendance de vote. Donc de manière générale, les voteurs musulmans ont soutenu le candidat ayant une bonne probabilité de surpasser le BJP dans le district concerné. Et selon les conditions de vie et la classe sociale de chaque votant, ce vote peut fluctuer entre différents candidats. Donc un autre élément d'analyse qui est intéressant est la division entre sunnites et chiites du vote. Les chiites de Lucknow ont historiquement voté pour le BJP, non pas pour des raisons idéologiques ou des avantages matériels qu'ils reçoivent du parti, mais parce qu'ils pensent que le Congrès s'appuie trop sur les musulmans sunnites pour ses points de vue sur les questions relatives aux minorités, qu'ils considèrent potentiellement discriminatoires. Mais donc la montée de ce sentiment anti-musulman pourrait aussi influencer ces tendances d'une autre manière. Ce sentiment anti-musulman s'exprime également dans la gestion de la vie culturelle et patrimoniale du pays. Le sécularisme est aujourd'hui érodé par la politique communautariste du gouvernement de Narendra Modi, qui s'affiche sans ambiguïté pour une Inde hindoue. Anouk, du coup, comment se traduit cette politique actuelle au niveau de la gestion du patrimoine national, qui regorge de vestiges de la période moghole et de monuments ou de lieux de culte de toutes les religions qui sont donc présentes en Inde?
Alors effectivement, en Inde, le patrimoine constitue un véritable enjeu de représentation pour les différentes communautés qui sont soucieuses de marquer le territoire. Et c'est aussi un enjeu de pouvoir pour le gouvernement actuel qui, on l'a vu, cherche à faire de l'hindouisme le socle de l'identité nationale. Alors la communautarisation du patrimoine n'est pas un phénomène nouveau. Il a pris de l'ampleur depuis les années 80-90 avec la montée en puissance du BJP et avec la politique ambivalente du Congrès. Mais il a également pris une nouvelle dimension depuis l'arrivée au pouvoir de Modi en 2014, si bien que l'historienne Supriya Gandhi, chercheur à Yale University, résume la politique actuelle du BJP en matière de patrimoine par ces trois termes: préserver, construire et détruire. Alors, en matière de préservation, une étude récente sur la gestion du patrimoine religieux par l'État indien, effectuée par Corinne Lefebvre, chargée de recherche au CNRS, note un double processus à l'œuvre. D'une part, l'État se désengage en matière de protection du patrimoine national, mais de façon sélective. On observe effectivement que le budget de la culture a augmenté ces dernières années, mais les dépenses liées à l'entretien de monuments d'héritage moghol ont été réduites. Alors, il faut préciser que le patrimoine moghol renvoie à la période historique d'expansion de la culture persane et de la religion musulmane en Inde entre le XVIe et le XIXe siècle, et on lui doit notamment des monuments prestigieux tels le Taj Mahal, Humayun's Tomb, le Fort Rouge et d'innombrables palais, observatoires ou mausolées qui figurent non seulement au patrimoine national mais également mondial. Alors, le gouvernement a instauré des programmes tels Adopt a Heritage, qui offre la gestion de monuments nationaux à des sponsors privés. Mais dans les faits, ce sont principalement des édifices non hindous qui ont été privatisés. Et cette mesure présente des risques importants, par exemple la promotion d'intérêts commerciaux aux dépens de la préservation d'un site, ou la restriction de l'accès public. Et elle illustre également la partialité du gouvernement à l'égard des sites non hindous. Dans le même temps, le gouvernement indien cherche à donner une visibilité accrue au patrimoine hindou. Un exemple intéressant est celui du yoga. En 2014, à peine élu, le Premier ministre Modi s'est mobilisé pour obtenir des Nations Unies la consécration d'une journée internationale du yoga, qui est donc célébrée depuis chaque 21 juin. Depuis 2016, le yoga est également inscrit sur la liste du patrimoine intangible de l'UNESCO. Et ce faisant, Modi a en fait habilement politisé une pratique ancestrale étroitement liée à l'hindouisme pour en faire l'emblème de l'Inde. Et derrière ce geste qui, à première vue, peut sembler dédié à la santé et au bien-être, se dissimulent des considérations très politiques de soft power et de nationalisme religieux. La politique du gouvernement se traduit également par de nombreuses destructions de lieux de culte et principalement de lieux de culte musulmans ou d'héritage moghol. L'exemple le plus frappant est celui de la mosquée Babri à Ayodhya, qui a été détruite en 1992, mais dont ce projet a été porté par le BJP depuis les années 80. Récemment, la Cour suprême a validé le remplacement de cette ancienne mosquée par un temple hindou. Et donc on observe une pratique de conversion des lieux de culte qui n'est pas un phénomène nouveau en Inde, mais qui a pris une grande ampleur ces dernières années. Et il faut préciser que c'est une pratique qui est illégale, car la loi de 1991 qui s'intitule Places of Worship Act vise à préserver les édifices religieux existants. Elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Et elle interdit donc la conversion de lieux de culte. Alors un autre phénomène intéressant est celui de la tendance à l'hindouisation des toponymes, qui est également symptomatique de la politique sectaire du gouvernement. Alors il y a de nombreux exemples, mais l'un d'entre eux est celui de la ville d'Allahabad, qui a été rebaptisée Prayagraj en 2018. Alors enfin, le troisième volet de cette politique patrimoniale se traduit par la multiplication de projets de construction d'édifices nouveaux qui sont destinés à projeter l'image d'une Inde hindoue glorieuse. De nombreuses statues colossales ont ainsi vu le jour, à l'instar de la statue géante de Shiva à Mumbai ou de celle de Patel au Gujarat, qui est à l'heure actuelle la plus haute au monde. Aujourd'hui, dans la ville d'Ayodhya, un site religieux de très grande envergure est également en travaux. Il est destiné à devenir un lieu de pèlerinage et un site touristique majeur. Un temple est en train d'être bâti, donc on l'a vu sur les ruines de la mosquée Babri. Un musée sera consacré au dieu Ram et il sera surplombé d'une statue de la divinité, haute de 221 mètres. Ce sera alors la plus haute statue du monde. La politique actuelle de gestion du patrimoine en Inde consiste donc à effacer de l'espace public les influences musulmanes ou chrétiennes en particulier pour donner plus de visibilité et de légitimité au patrimoine hindou. Elle s'inscrit dans un effort du gouvernement actuel de réécriture de l'histoire et de redéfinition de l'identité nationale, et elle remet en cause le principe de sécularisme, contribuant ainsi à attiser les conflits intercommunautaires dans un pays où la paix sociale est particulièrement fragile.
Quelle est la réaction des communautés face à la politique sectaire du gouvernement ?
Oui, la réaction de la population indienne est ambivalente. D'un côté, les partisans du gouvernement participent activement à la safranisation par le bas du patrimoine et de l'espace public, c'est-à-dire qu'ils cherchent à s'approprier ces lieux au nom du nationalisme hindou, qui est symbolisé par la couleur orange-safran. Ces militants se constituent parfois en milices et multiplient des actes d'intimidation, de violence et de vandalisme à l'encontre des musulmans et des chrétiens notamment. Alors face à eux, les membres des communautés marginalisées se mobilisent, tentent de s'opposer au sectarisme en jouant notamment la carte du sécularisme constitutionnel pour faire valoir leurs droits. Donc de manière générale, les minorités en Inde ont plutôt tendance à jouer profil bas et donc à rappeler à l'État les principes constitutionnels pour préserver donc leur statut. À leur côté se trouvent des activistes sécularistes qui se mobilisent également pour défendre l'idée d'une Inde plurielle. Ces derniers sont désormais considérés comme les opposants au pouvoir et ils font figure d'antinationaux. Le sécularisme est ainsi passé d'un principe constitutionnel imposé par une élite politique à un slogan de résistance populaire chanté dans la rue par les manifestants. On rencontre également de nombreux Indiens qui continuent de partager des lieux de culte, quelle que soit leur confession. Certaines localités font figure de bastions de résistance contre le sectarisme. Au Punjab, par exemple, la ville de Malerkotla est réputée pour son attachement au pluralisme. À Ajmer, les tombeaux des saints soufis font l'objet de cultes multireligieux. De même à Goa, la basilique Saint-François-Xavier attire une communauté mixte de pèlerins. Donc il subsiste des lieux de culte partagés, qui transcendent donc les différences religieuses. Enfin, on note également des élans de solidarité intercommunautaire qui continuent de promouvoir une approche plurielle et inclusive de la nation indienne. Et on a pu le constater notamment lors de manifestations contre la loi de citoyenneté qui vise à exclure les réfugiés musulmans du processus de naturalisation en Inde. Et à cette occasion, on a pu noter la présence massive de femmes dans l'espace public en opposition à la politique actuelle de communautarisation qui les impacte doublement.
Effectivement, en décembre 2019, les femmes musulmanes du quartier de Shahinbagh à Delhi se sont massivement mobilisées pour revendiquer le sécularisme de la Constitution bafoué par les politiques discriminatoires du BJP au pouvoir. Cette mobilisation est historique du fait de son ampleur, mais surtout dans sa force symbolique. Les femmes d'une communauté discriminée s'élèvent contre la toute-puissance du BJP. Léna, comment l'Inde pense-t-elle les droits des femmes à l'aune du principe fondateur du sécularisme ?
Alors, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, l'Inde est pointée du doigt comme le mauvais élève sur la scène internationale. Le principe de non-discrimination sur la base du sexe est inscrit dans la Constitution. Pourtant, l'accès des femmes à leurs droits politiques, sociaux et économiques est constamment entravé par un certain nombre de facteurs. Tout d'abord par les violences sexistes et sexuelles, mais aussi par la pauvreté qui touche massivement les femmes. On note par exemple que les femmes constituent près de 42% de la main-d'œuvre agricole, mais possèdent moins de 2% de ces terres. Par ailleurs, malgré la démocratisation de l'accès à l'éducation en Inde, les femmes et les filles demeurent les plus éloignées des bancs de l'école et surtout des études supérieures. En ce qui concerne la représentation politique, les femmes sont largement sous-représentées malgré les politiques de discrimination positive. Enfin, en dépit de l'interdiction légale d'un certain nombre de pratiques qui sont liées aux traditions ou aux croyances culturelles et religieuses, certains usages néfastes à l'autonomie des femmes ou qui mettent en péril leur vie persistent. La dot pour le mariage des filles, par exemple, mais aussi l'héritage réservé aux hommes de la famille ou la préférence pour les garçons qui conduit à l'avortement sélectif des fœtus féminins, voire, dans certains états du nord-ouest de l'Inde, à l'infanticide des nouveau-nés de sexe féminin. La question de l'accès aux droits et de l'autonomisation des femmes en Inde reste cependant intimement liée au poids du religieux, tant sur le plan politique que sur les normes et les pratiques sociétales. Sur un plan institutionnel et politique, donc, la question des droits des femmes est fortement liée à celle du sécularisme. En théorie, la Constitution indienne protège tous les Indiens et toutes les Indiennes des discriminations sur la base de la race, du genre, de la religion ou de la caste dans ses articles 15 et 16. La Constitution contient même des articles très détaillés sur la garantie des droits fondamentaux, en premier lieu desquels l'égalité femmes-hommes. En matière de protection des droits des femmes, la Constitution va même plus loin, puisqu'elle prévoit des traitements spéciaux pour les femmes, telles que les mesures de discrimination positive qui réservent 33% des sièges aux femmes dans les assemblées politiques. Pour autant, le principe constitutionnel de non-discrimination sur la base du sexe entre régulièrement en confrontation avec la liberté religieuse consacrée dans la Constitution indienne par la reconnaissance de l'Inde comme une république séculière, on l'a dit depuis 1976. Au moment de l'indépendance, sous l'influence de Nehru en 1949, la Constitution indienne accorde une importance particulière à la protection des minorités et de leur particularisme culturel. Et comme l'a expliqué Thibaut précédemment, le sécularisme a donc été érigé comme garde-fou de cette liberté religieuse et culturelle. Donc, si les lois pénales sont séculières et que, en théorie, les différentes religions n'ont aucun droit sur le plan législatif, elles ont tout de même conservé des grandes prérogatives en matière de gestion des lois civiles personnelles, soit des lois qui touchent à la gestion de la vie privée, notamment en matière de mariage, de divorce, d'héritage, d'adoption ou de pension alimentaire. Chaque communauté a donc son propre code civil et son propre système légal en matière de droit de la famille, qui est plus ou moins favorable aux femmes. La gestion de l'intime, des affaires domestiques, du privé, est donc de la compétence des religions et aucune loi ne permet de légiférer uniformément en la matière au risque de contrevenir au sécularisme. L'autonomie des femmes dépend donc entièrement du bon vouloir des religions à reconnaître des droits garantissant l'égalité malgré la reconnaissance du principe de non-discrimination sur la base du sexe sur un plan constitutionnel. Il y a donc ici une véritable concurrence des droits fondamentaux. Et malgré plusieurs tentatives, les projets de création d'un code civil uniforme, qui était pourtant prévu dans la Constitution, ont tous avorté. Dans un jugement du 23 avril 1985, la Cour suprême indienne rend un verdict historique en matière de protection des droits des femmes contre la liberté religieuse. La Cour décide alors d'accorder à Shabano, une femme divorcée de confession musulmane, une pension alimentaire en vertu de l'article 125 du Code de procédure pénale de 1973. Cet article 125 oblige un homme qui en a les moyens suffisants de porter assistance à ses personnes parentes, y compris son ex-femme. Cette décision provoque alors un tollé en Inde puisqu'elle va à l'encontre de la loi personnelle musulmane. Shabano elle-même subira des pressions et elle sera poussée à écrire une lettre ouverte dans laquelle elle dénonce et demande la décision de la Cour suprême. La contestation populaire suite à cette décision de la Cour suprême est telle qu'un an plus tard, donc en 1986, est promulguée la loi Muslim Women Act proposée par le Parti du Congrès pour ne pas perdre l'électorat musulman. Cette loi soustrait les femmes musulmanes divorcées de la section 125 du Code de procédure pénale, donc qui obligeait un homme qui en avait les moyens de porter assistance à ses personnes parentes. Le Parti du Congrès prend donc ici clairement parti en faveur de la liberté religieuse, malgré les enjeux évidents concernant l'autonomie des femmes musulmanes. De même, en septembre 2018, la Cour suprême indienne considérait que l'interdiction d'entrer des femmes en âge de procréer dans un temple hindou au Kerala, qui est le Sabarimala Temple, constituait une violation de la Constitution. Face aux contestations, les Kéralaises s'étaient massivement mobilisées pour dénoncer le patriarcat des lois religieuses. La manifestation, qui était composée de près de 5 millions de femmes, soit plus du tiers de la population féminine de l'État, avait formé un mur humain de près de 800 km à travers l'État. Là encore, de nombreux élus du Congrès n'ont pas soutenu le mouvement des femmes du Kerala, et certains ont même déploré la décision de la Cour suprême, y voyant une atteinte aux lois séculières, malgré cette mobilisation massive de la société civile. De son côté, le BJP défend avec ferveur la création d'un code civil unique, puisque ce projet s'inscrit pleinement dans l'idéologie de l'Hindutva, donc dans l'objectif de créer une seule nation hindoue, en assimilant les communautés religieuses minoritaires par la mise en place de lois personnelles communes basées sur les traditions de l'hindouisme. Le BJP n'hésite pas à instrumentaliser la lutte pour l'émancipation des femmes pour en faire un argument d'adhésion en faveur du projet de code civil unique. Et dans sa rhétorique, le parti pointe notamment l'islam comme principal oppresseur des femmes. Il est important de souligner que même si le BJP se targue d'avoir de nombreux élus au sein de ses rangs, le parti défend finalement un modèle traditionnel familial qui repose sur une division très genrée des rôles sociaux.
Ainsi, sur le plan institutionnel, sécularisme et droits des femmes se font concurrence, la liberté religieuse ayant une fâcheuse tendance à annihiler les velléités progressistes en matière d'autonomisation des femmes. Si dans la Constitution indienne, les femmes sont reconnues de manière uniforme et homogène, toutes les femmes occupent-elles réellement une position similaire dans la société indienne ? Quel est l'impact de la communauté sur l'expérience vécue ?
Au-delà du fait que toutes les femmes indiennes, en raison de leur appartenance de genre, sont reléguées à une position subalterne dans la société patriarcale, les femmes qui cumulent plusieurs identités, dont l'appartenance à une communauté religieuse minoritaire ou à une caste considérée inférieure, sont encore plus marginalisées. Ainsi, les femmes musulmanes, par exemple, mais aussi les femmes chrétiennes, sont particulièrement touchées par ce phénomène de multiplication des rapports oppressifs, puisqu'elles doivent faire face non seulement aux discriminations liées à leur genre, mais font également partie de communautés particulièrement stigmatisées par les politiques nationalistes hindoues du PJB. Ces femmes vivent donc un double stigmate, si ce n'est un triple, lorsqu'elles sont en plus d'un milieu défavorisé. Comment, par exemple, rapporter les violences intrafamiliales qu'elles peuvent subir lorsqu'elles sont par ailleurs la cible des politiques d'exclusion menées par le BJP via les institutions représentantes de l'autorité publique? Dans son essai « Les subalternes peuvent-elles parler ?», Gayatri Spivak explique que les femmes à l'intersection de ces systèmes d'oppression, telles que peuvent l'être les femmes musulmanes, sont ainsi exclues de la sphère du discours et de la représentation. Mais ce phénomène de multiplication des rapports d'oppression touche aussi les femmes hindoues issues de basse caste, qu'elles soient dalites ou appartenant à une communauté tribale. D'ailleurs, ces facteurs d'oppression, s'ils sont bien distincts, ils n'agissent pas indépendamment les uns des autres, puisque le fait d'appartenir à une basse caste et à un milieu social défavorisé a tendance à amplifier les discriminations liées au genre. À ce sujet, je vous propose d'écouter M. Shekhar, qui est fondateur d'une ONG en Inde, qui agit pour le développement local dans le district de Kadalur, dans l'état du Tamil Nadu.
Le système de caste en lui-même est de nature oppressive. Donc toutes les sections des Dalits sont opprimées. En même temps, en ce qui concerne les femmes, elles ne sont pas seulement opprimées par la société, elles sont aussi opprimées par leur mari. C'est donc une double oppression. Si vous croyez au marxisme, c'est même une triple oppression. Elles sont non seulement opprimées par les castes, elles sont aussi opprimées par le genre, elles sont aussi opprimées par la classe. Donc les femmes dalites, si vous voyez l'échelle sociale, elles sont au plus bas.
La combinaison de ces facteurs produit un certain nombre de barrières sociales qui les empêchent d'accéder pleinement à leurs droits sociaux et politiques, mais aussi aux services de santé, à un emploi et les exposent davantage aux violences de genre. Ces facteurs ont un fort impact sur la santé des femmes dalites. En 2018, un rapport des Nations Unies a notamment estimé qu'en moyenne, une femme dalite meurt 14,6 ans plus tôt qu'une femme de caste supérieure. Finalement, si les politiques publiques indiennes peinent à prendre en compte la dimension intersectionnelle des oppressions, l'aide au développement, qui passe majoritairement via les ONG et les associations implantées localement, se concentre davantage sur les populations de basse caste et notamment sur les femmes.
En Inde, les clivages religieux, castéistes et socio-économiques s'ajoutent donc au clivage des genres et constituent pour les groupes les plus vulnérables un véritable frein à l'accès à l'éducation, à l'emploi ou à la santé. Comme Léna l'a indiqué, donc les femmes sont particulièrement discriminées et c'est aussi le cas des membres de la communauté LGBTQ+, ainsi que les populations aborigènes, qu'on appelle Adivasi, qui se retrouvent ainsi particulièrement touchées par de multiples niveaux de ségrégation. La gestion de la diversité reste donc l'un des plus grands défis de l'Inde, un sous-continent peuplé de plus d'un milliard de personnes, une société structurée en castes et profondément marquée par les religions, et où subsistent des tensions entre communautés qui sont héritées d'une histoire mouvementée. Depuis l'indépendance, les gouvernements successifs ont tenté de promouvoir le sécularisme comme une valeur fondamentale de la nation pour garantir la tolérance religieuse et la paix sociale. Dès les années 1980, les prises de position du Congrès en faveur de communautés religieuses ont marqué un glissement du politique vers le religieux, qui est aujourd'hui repris par le BJP.
Depuis 2014, le Premier ministre Modi s'efforce de redéfinir l'identité indienne. En prônant l'unité sous la bannière du nationalisme hindou, le gouvernement indien relègue les partisans du sécularisme au rang d'opposants. Face à la montée du nationalisme hindou, une partie de la société civile fait preuve d'un esprit de résistance pacifique et de résilience pour défendre le pluralisme qui est devenu emblématique de l'Inde. Des élans de solidarité intercommunautaire se multiplient pour contrer les politiques sectaires du gouvernement, ou pallier les carences de l'État que la pandémie a mis en exergue. Cette tension entre des forces inégales témoigne de la fragilité et de la volatilité du sécularisme, pourtant ancré dans la Constitution. Le sécularisme à l'indienne est un principe qui a certes permis de maintenir l'unité dans un pays divisé et de consolider un sentiment d'appartenance commune, mais dépourvu de définition claire, il porte en lui les germes du communautarisme qui risque de mettre à mal le pluralisme qui fait la richesse de ce pays. Protéger à la fois l'unité et la diversité est un défi qui se pose dans tous les pays du monde, et l'expérience de l'Inde permet de mieux saisir les enjeux et les difficultés, mais aussi de bien comprendre l'importance cruciale du pluralisme dans nos sociétés contemporaines.
Vous venez d'écouter le podcast « Voyage au cœur des sociétés plurielles » produit par l'Observatoire Pharos. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques, critiques ou commentaires par email à l'adresse contact@observatoirepharos.com. Vous pouvez également soutenir la poursuite de ce projet de podcast grâce à notre campagne de financement participatif disponible dans la description. Pour rester informé de la sortie des prochains épisodes et pour accéder à nos différents contenus relatifs au pluralisme culturel et religieux, rendez-vous sur notre site web www.observatoirepharos.com. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, et abonnez-vous à nos différentes lettres d'information. À très vite pour un nouveau voyage.